Bonjour à tous. Alors, je vais procéder à un petit commentaire rapide de la proposition de corriger de l'UE3 du DCG session 2019. Alors, en commençant par remarquer qu'il s'agissait d'un sujet extrêmement classique dans la forme, donc trois parties. Tout d'abord, résolution de situations pratiques. Donc là, il y avait 13 points qui étaient accordés, 5 dossiers au total. C'était relativement long et varié. Donc, une question sur 3 points. Et puis un commentaire de document qui était valorisé tout de même à hauteur de 4 points, alors qu'il n'y avait que 3 questions. Donc vraiment quelque chose de tout à fait habituel, aucune surprise de ce côté-là. Alors, comme je l'ai dit dans la première partie, l'étude de situation pratique. 13 points, mais 5 dossiers quand même, un total de 9 questions, et c'est là qu'il pouvait y avoir enfin c'était long, voilà, c'était long parce qu'on passait d'un thème à un autre, plus le thème de la question et le thème du commentaire de document. Donc c'est vrai que y avait quand même de quoi s'occuper. Alors justement, alors en revanche, donc ça pouvait paraître un petit peu long, mais très honnêtement, je trouve qu'il n'y avait pas de grosses difficultés dans ce sujet 2019. Alors, en ce qui concerne l'étude de situation pratique, tout d'abord, le premier dossier était un sujet vraiment là aussi banal, on va dire. Enfin, on est dans des hypothèses de situations très courantes en pratique. Le problème qui se posait, c'était le problème du recours au CDD. Et donc, il fallait se prononcer pour savoir si l'embauche de ce salarié, Jérémy, en CDD était ou non justifié. Donc évidemment, ça pose le problème des cas de recours au CDD. Donc on commence évidemment par exposer la règle générale applicable, c'est-à-dire qu'un CDD ne peut pas, n'est pas destiné à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et que, eh bien, il y a des cas de recours précisément cités par le Code du travail. Et donc, eh bien, il fallait citer ces cas de recours, parmi lesquels se trouve l'accroissement temporaire d'activité qui concernait le cas en question, puisque on vous disait que le contrat qui avait été signé avec ce salarié indiqué comme motif un accroissement d'activité. Et donc, il fallait préciser bien sûr ce qu'on entend par accroissement temporaire d'activité, par exemple en donnant des illustrations. L'accroissement temporaire d'activité, c'est le fait de devoir répondre à une commande exceptionnelle. C'est le fait d'avoir à accomplir des travaux qui ont un caractère d'urgence. Voilà, donc il fallait quand même un peu illustrer ça. Et en application au cas, une fois qu'on avait donc ainsi présenté les règles applicables, eh bien, il fallait se pencher sur ce motif qui avait été donné d'accroissement d'activité. Donc, l'accroissement temporaire d'activité est un cas de recours autorisé parce qu'il s'agit justement d'une hypothèse temporaire, hein. Et là, qu'est-ce qu'on observait? Que l'entreprise n'était pas confrontée à un accroissement temporaire de son activité, mais à un accroissement constant de son activité. Et que donc, eh bien, on ne rentrait pas dans le cadre légal et que ce motif de recours au CDD qui était invoqué par l'employeur n'était évidemment pas justifié. La question suivante, qui était un petit peu le prolongement, toujours donc sur le CDD de ce salarié, Jérémy Deville. Donc, on vous disait que le contrat avait été conclu pour la période du 1er octobre 2018 au 30 avril 2019, mais que le 5 mai 2019, il était toujours en poste. Donc, il fallait qualifier juridiquement la situation de ce salarié. Donc, première chose à faire une distinction entre le CDD de date à date ou à terme précis et le CDD à terme incertain. On revenait au CDD de date à date, puisque c'était de ça qu'il s'agissait, pour parler donc du du problème de la durée de ce CDD et de son renouvellement. Parce que, effectivement, il est possible, lorsqu'il s'agit d'un CDD de date à date, de procéder à un renouvellement, faute de disposition conventionnelle sur ce point, eh bien, deux renouvellements sont possibles avec une durée maximale de 18 mois. Et si on ne respecte pas ça, eh bien, il peut y avoir requalification en CDI. Et il fallait ajouter que on peut donc renouveler, mais à condition toutefois, la Cour de cassation l'exige, que, eh bien, il y ait, que cette possibilité soit prévue dans le contrat de travail. Il faut donc qu'il y ait ce que l'on appelle une clause de renouvellement qui précise justement les modalités de ce dispositif. Donc, soit dans le contrat, soit dans un avenant qu'on remet au salarié avant le terme du CDD. Et s'il n'y a pas une telle clause, eh bien, et que le contrat se poursuit, eh bien, on est dans l'hypothèse d'une requalification en CDI. C'était bien le cas ici. L'énoncé ne parlait pas de clause de renouvellement. CDD de date à date, je l'ai dit. Au-delà de la date, le salarié est toujours là. Eh bien, il faut considérer donc qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée. Le dossier 2 concernait le calcul des congés d'une salariée. Donc, c'était ça le problème de droit, hein, le calcul des droits aux congés. Alors, évidemment, dans cette hypothèse-là, on commence par rappeler la règle. 2 jours et demi de congés payés par l'employeur et par mois de travail effectif au cours de la période de référence. En précisant que pour ce calcul des droits au congé payé, on ne tient pas compte normalement des absences du salarié. C'est-à-dire que pendant les absences, le salarié n'acquiert pas de jours de congé, sauf pour certaines absences. Et là, bah, il faut quand même citer au moins un exemple. Eh bien, on peut citer par exemple le congé de maternité, bien sûr, les périodes de congé de l'année précédente, ou encore les arrêts de travail qui sont consécutifs à un accident du travail. Et puis, il fallait préciser, parce que on était dans cette hypothèse-là, que les formations qu'un salarié réalise dans le cadre du plan de formation qui est mis en place par l'employeur sont également assimilées à des périodes de travail effectifs. Ce qui veut dire que ces absences-là ne vont pas diminuer en quelque sorte le droit au congé du salarié. En revanche, les absences pour maladie non professionnelle, elles sont décomptées. Donc, le salarié n'acquiert pas de droit pendant cette période-là, mais il y a un dispositif du Code du travail qu'on appelle la règle des équivalences et qui permet de neutraliser en quelque sorte les périodes d'absence de courte durée. Donc, à partir du moment où un salarié peut justifier au cours de la période de référence de 12 périodes de 4 semaines de travail ou de 24 jours de travail, eh bien, les absences, ces petites absences, n'auront pas d'incidence sur le droit à congé payé. Et donc, eh bien, dans l'application au cas, il fallait dire évidemment que le décompte que l'employeur envisageait de faire, qui était en imputant ses absences sur le droit au congé, donc en diminuant les congés de la salariée, n'était pas justifié parce que la formation pendant le plan de formation, bon, ben, c'est du travail effectif. Et si, effectivement, elle avait bien travaillé 12 période soit de 4 semaines, soit de 24 jours, eh bien, l'absence pour maladie ne pouvait pas avoir d'effet sur ses congés payés. Ensuite, il y avait une question, alors, on ne peut pas dire qu'elle était compliquée, qu'elle était difficile, mais elle était un petit peu plus compliquée parce qu'il fallait utiliser la documentation fournie. Alors bon, on pouvait aussi utiliser tout simplement les connaissances, hein, puisque tout cela était expliqué dans le cours. Et il s'agissait donc de déterminer l'indemnisation d'un salarié qui est absent pour maladie. Donc, il fallait évidemment parler à la fois de l'indemnisation par la caisse primaire d'assurance maladie, par le versement d'indemnités journalières, hein, à l'issue, fallait pas oublier ça, d'un délai de carence de 3 jours, donc indemnité journalière égale à 50% du salaire journalier de référence. Et si le salarié remplit un certain nombre de conditions qui sont prévues soit par la convention collective, soit par le code du travail, eh bien, l'employeur verse une indemnisation complémentaire. Donc là, il fallait rappeler les conditions pour bénéficier de ce versement complémentaire. Il fallait dire que ce versement n'intervenait là aussi qu'à l'issue d'un délai de carence, mais qui cette fois-ci est de 7 jours, et que le complément patronal en question atteignait 90% de la rémunération brute pendant 30 jours, puis 2/3 de la rémunération brute pendant les 30 jours suivants, ces durées étant augmentées de 10 jours par période de 5 ans d'ancienneté. Voilà, et on vous demandait de simplement poser la formule de calcul des indemnités perçues par le salarié. Donc, il fallait poser la formule concernant les indemnités journalières. Alors, dans le corrigé, évidemment, j'ai mis le résultat, c'est-à-dire 32,87 € pour les indemnités journalières. Mais on ne vous demandait pas, évidemment, de faire ce calcul, simplement de poser la formule. Voilà, donc vous aviez tous les éléments dans le document qui était fourni, ce tableau. Alors, j'ai eu l'impression qu'il y en a beaucoup que ça a un petit peu perturbé, ce document, mais ça fait partie aussi de ce qu'on vous demande, c'est-à-dire de savoir utiliser une documentation juridique. Voilà, enfin, de toute façon, les éléments étaient également dans le cours. Le dossier 3, alors là, c'était un véritable cadeau, il faut le dire, c'était très facile. Ça concernait le comité, le nouveau comité social et économique. Il fallait s'attendre à ce que ça tombe cette année. Donc, première question, à partir de quand est-ce qu'on on a l'obligation de mettre en place un CSE? Bon, ben, c'est très simple, hein, à partir de 11 salariés dès lors que cet effectif est atteint pendant 12 mois consécutifs. Ça, c'est la règle actuelle qui changera au 1er janvier 2020 du fait de la loi Pacte, mais pour l'instant, c'est comme ça. Et donc, il fallait, là, la difficulté, c'était l'application au cas, encore que c'était vraiment pas difficile. L'entreprise avait un effectif stable de 9 salariés. Au jour de l'embauche donc des 2 nouveaux salariés en mars 2018, 9 salariés, c'est évidemment insuffisant pour que l'entreprise soit dans l'obligation de mettre en place un CSE. Donc en mars 2018, l'employeur n'avait aucune obligation en la matière. Deuxième question relative à ce CSE, la durée du mandat. Donc, les syndicats, l'employeur prétendait que la durée, c'était 3 ans, voilà, et les syndicats contestaient. Eh bien, là, il suffisait d'exposer la règle. Ils sont élus pour 4 ans, mandat renouvelable. On peut toutefois, par accord de branche ou accord d'entreprise, prévoir une durée de mandat différente, mais qui sera de toute façon comprise entre 2 et 4 ans. Donc, application au cas, s'il n'y a pas de texte conventionnel applicable à l'entreprise, eh bien, les membres de cette future délégation du personnel au comité social et économique sont élus pour 4 ans. Ce sont donc les syndicats qui avaient raison. Dossier 4. Alors là, ça posait le problème du taux de majoration des heures supplémentaires, l'employeur souhaitant le réduire. Et donc, la question qui était posée était de savoir si le projet de l'employeur, qui était de réduire ce taux de majoration de 25% à 15%, pouvait faire l'objet d'un accord d'entreprise, puisqu'il n'y avait pas d'accord de branche applicable. Eh bien, il fallait bien sûr rappeler quelle est la règle, hein, en matière d'heures supplémentaires. Donc, c'est fixé justement par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut par convention ou accord de branche, mais qu'il y a une règle incontournable qui est que cette majoration ne peut pas être inférieure à 10%. Donc, voilà, il fallait également dire que s'il n'y a pas d'accord, eh bien, on applique les règles supplétives, 25% pour les 8 premières heures et 50% au-delà. Et l'application au cas, eh bien, consistait à dire que, effectivement, cette question du taux de majoration des heures supplémentaires peut parfaitement faire l'objet d'un accord d'entreprise et que là, bah, a priori, il n'y a pas d'obstacle puisque l'employeur veut redescendre à 15%. Donc, 15%, c'est au-delà, c'est supérieur au minimum fixé par la loi. Donc, il n'y aurait pas d'obstacle. Huitième question. Alors, c'était peut-être la plus délicate, hein, parce que ces choses-là ne sont jamais très simples. Il s'agissait de savoir justement si dans cette entreprise, on pouvait ou non conclure un accord d'entreprise alors qu'il n'y avait pas de délégués syndicaux. Donc, voilà, ça posait ce problème de la négociation d'un accord d'entreprise en l'absence de délégués syndicaux, puisqu'il n'y en a pas dans toutes les entreprises. Alors, les règles applicables, et c'est là que je dis que c'était peut-être ce qui avait le plus difficile dans votre sujet, ces règles applicables dépendent de l'effectif de l'entreprise. C'est un dispositif assez complexe. Et lorsque l'effectif est compris entre 11 salariés et moins de 50 salariés, qui était l'hypothèse de cette société, eh bien, on peut conclure un accord d'entreprise quand il n'y a pas de délégués syndicaux, l'employeur peut conclure un accord d'entreprise, soit avec un ou plusieurs salariés mandatés expressément par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche, soit il peut négocier aussi avec un ou plusieurs membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique. Alors, dans le premier cas, si on a négocié avec des salariés expressément mandatés, eh bien, il faut faire approuver l'accord qu'on a conclu avec ces salariés mandatés par l'ensemble du personnel. Donc, il y a un vote auquel sont invités les salariés et il faut que ce soit validé à la majorité des suffrages exprimés. Et il y a un délai pour organiser cette consultation qui est de 2 mois après la conclusion de l'accord. Alors que si c'est conclu cet accord avec des membres titulaires de la délégation au comité social et économique, eh bien, la validité de l'accord à ce moment-là est subordonnée au fait que une majorité de membres du comité valide justement l'accord qui a été conclu. Donc, il fallait, dans l'application au cas, dire que l'absence de délégués syndicaux dans cette entreprise n'était absolument pas un obstacle à la conclusion d'un accord, en tout cas à l'ouverture de négociations, et que, puisqu'un comité social et économique était mis en place en avril 2019, ça vous était dit dans l'énoncé un petit peu plus tôt, eh bien, l'employeur avait le choix entre ouvrir les négociations avec un ou plusieurs membres titulaires de ce comité ou avec un ou plusieurs salariés mandatés par une organisation syndicale représentative. Voilà, ensuite, on avait dans le dossier 5 le cas de cet employeur confronté à un sinistre qui l'amenait à interrompre l'activité de l'entreprise pendant plusieurs semaines et qui ne souhaitait pas procéder à des ruptures de contrat de travail. Et donc, ça vous amenait forcément à vous poser le problème des conditions de l'activité partielle. Donc là, il fallait expliquer ce que c'est. L'employeur met les salariés en situation d'activité partielle parce que l'entreprise doit réduire ou suspendre son activité pour un des motifs qui sont précisés par la loi. Donc là, il fallait soit les citer tous, soit en citer quelques-uns et citer en tout cas celui qui concernait le cas en question, c'est-à-dire l'hypothèse du sinistre ou d'intempérie à caractère exceptionnel. Ensuite, vous expliquez que ça a un intérêt, c'est que on réduit l'activité, on ne modifie pas les contrats de travail pour autant, on ne licencie pas les salariés et l'employeur va verser aux salariés en plus, il va payer les heures de travail accomplies, mais il va leur verser une indemnité dite d'activité partielle. dont le montant est égal au moins à 70% du salaire brut par heure perdue, heure non travaillée. Et puis, l'employeur, lui, va pouvoir demander à l'État une aide financière, une allocation d'activité partielle. Mais pour cela, et c'est ce qu'il fallait évoquer, eh bien, il lui faut accomplir des formalités, consulter le comité social et économique, et puis déposer une demande préalable d'autorisation d'activité partielle auprès du préfet du département. En ajoutant toutefois que dans les hypothèses de sinistre et d'intempérie, ce qui est logique, évidemment, les démarches en question peuvent être accomplies après la mise en activité partielle des salariés en respectant un délai de 30 jours. Donc, application au cas, l'entreprise a bel et bien subi des intempéries violentes qui ont détruit plusieurs de ses chantiers. C'est une circonstance qui rentre tout à fait dans le cadre légal de l'activité partielle. Donc, consultation du CSE, demande au préfet, versement aux salariés d'une indemnité d'activité partielle et demande de versement pour l'employeur d'une allocation spécifique. La question de cours, bah écoutez, on pouvait s'y attendre aussi, hein, ce dispositif qui est issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017, la rupture conventionnelle collective. Voilà, on est tout à fait dans l'actualité, on va dire. Bon, il n'y a pas encore beaucoup de ces ruptures conventionnelles qui ont été réalisées, mais il y en a quand même quelques-unes. La presse s'en fait écho quelquefois dans des entreprises importantes. Donc, c'est quelque chose, une question à laquelle on pouvait s'attendre. Donc, on explique ce que c'est. Ça permet à l'employeur de supprimer des emplois, mais sans passer par la case licenciement, en sollicitant les salariés qui veulent volontairement quitter l'entreprise. Il fallait évidemment dire que il est absolument nécessaire de négocier un accord d'entreprise pour ça, en précisant quelles étaient les modalités, quel était le contenu de cet accord qui doit préciser justement les modalités du dispositif qu'on met en place dans l'entreprise. Le nombre de départs, l'information du CSE, les indemnités qui vont être versées, etc. Voilà, il fallait évidemment préciser que l'administration doit être informée et qu'il faut transmettre l'accord à cette autorité administrative pour qu'elle le valide. Hein. Donc, il y a là une procédure qui passe par l'administration. Ensuite, les salariés qui sont candidats à la rupture le font savoir à l'employeur. Et si l'employeur accepte la demande du salarié, ça met un terme au contrat de travail. Le salarié reçoit une indemnité conventionnelle de rupture et celle-ci est au moins égale à l'indemnité de licenciement auquel il pourrait prétendre. Et puis, il faut ajouter aussi que le salarié a droit aux allocations chômage. Voilà, donc pour cette question de cours qui présentait pas beaucoup de difficultés. Enfin, il restait l'étude de documents. Ce n'était pas si simple, hein. Cet arrêt que d'ailleurs j'avais étudié en live, non pas l'année dernière, mais dans le courant de l'année 2018. Cet arrêt n'était pas si simple, enfin c'était pas non plus insurmontable. Et ça posait le problème qu'il vous fallait présenter de la possibilité pour des salariés d'obtenir de l'employeur qu'il communique les contrats de travail et les bulletins de salaire d'autres membres du personnel parce que les salariés qui demandent ça veulent pouvoir établir la preuve d'une discrimination dont ils pensent être victimes. Donc voilà, le problème de droit, c'est ça. Est-ce que les salariés peuvent obtenir de l'employeur la communication des contrats de travail, des bulletins de salaire d'autres membres du personnel ? On vous demandait de rappeler le régime probatoire qui est applicable en cas de discrimination. Alors ça, c'était vous aviez la réponse dans le cours et en partie aussi dans le dans l'arrêt. La réponse est la suivante. Lorsque quelqu'un se prétend devant la justice victime de discrimination, il doit présenter au juge des éléments de fait qui laissent supposer justement l'existence d'une telle discrimination. Et ensuite, donc voilà, le demandeur présente au juge des éléments de fait qui laissent simplement supposer l'existence d'une discrimination. Et c'est le défendeur, c'est-à-dire l'employeur, qui ensuite devra prouver, pour échapper justement à une condamnation pour discrimination, qui devra prouver que les éléments de fait qui ont été invoqués ne sont pas constitutifs d'une pratique discriminatoire et que la décision, alors par exemple concernant le montant d'un salaire, est justifiée par des éléments objectifs et qui sont étrangers à toute discrimination. Et on vous demandait pour terminer quelle était la portée de la décision de la Cour de cassation. Eh bien, la Cour de cassation admet hein, la demande de, enfin, elle valide, si mes souvenirs sont justes, la décision de la Cour d'appel qui a admis la demande des salariés. Et attendez, je vérifie quand même avant de vous dire ça. Il me semble que c'est ça. Oui, c'est ça. Elle rejette le pourvoi. Elle valide la décision de la Cour d'appel qui a fait droit à la demande des salariés. Et ce qui va permettre à ces salariés qui se pensent victimes d'une discrimination en matière de salaire, d'égalité salariale, eh bien, d'obtenir les éléments d'information, contrat de travail, bulletin de salaire des autres salariés pour pouvoir établir la preuve d'une telle discrimination. Voilà, donc selon moi, deux choses un petit peu délicates peut-être. Ce commentaire de document, pas forcément si facile. Et puis la question de l'accord d'entreprise lorsque il n'y a pas de délégués syndicaux. Voilà, pour le reste, je pense que vous aviez là une épreuve tout de même très accessible avec voilà, des questions qui ne présentaient pas beaucoup de difficultés, même des questions extrêmement faciles dans le dossier 3, dont deux questions n'ont pas dû vous occuper très longtemps, la réponse étant très évidente et très courte. Voilà, donc j'espère que ce sujet vous aura porté chance. Et que les notes seront bonnes. Bonne journée à tous et à bientôt.